Ce qui va suivre est une mise en voie du premier chapitre de « Tout pour tout le monde ». « Tout pour tout le monde », c'est l'œuvre fictionnelle de M.E. O'Brien et de Ayman Adel Hadi, deux universitaires traitant entre autres des questions de genre. « Tout pour tout le monde », sous-titré « Une histoire orale de la commune de New York 2052-2072 », rassemble une douzaine d'entretiens comme autant de portraits des actrices de cette insurrection qui a donné lieu à une façon de fonctionner ensemble et d'organiser le commun. Ce qui va suivre est une mise en voie d'une partie du récit de Miss Kelly qui témoigne de ce qu'elle a vu et vécu depuis le quartier de Hunts Point à New York.
Pourquoi ce centre se trouve-t-il ici à Hunts Point ?
Ah, c'est un quartier chaud ici, il y a des années, j'y ai travaillé tellement longtemps. Quand je suis arrivée ici en 41 à peu près, c'était très différent d'aujourd'hui. Beaucoup de filles travaillaient tout le long de l'avenue, dans les rues adjacentes. C'était une zone industrielle, des garages, un gros marché aux primeurs, des voies ferrées, et beaucoup d'entrepôts abandonnés. C'était pas une période facile, j'étais toujours défoncée. L'ambiance était de plus en plus tendue à Chelsea, je pouvais plus traîner là-bas. La police essayait de nous chasser, nous ramassait tous les soirs. J'ai été arrêtée plusieurs fois et ils m'ont dit que si je restais là, ils me feraient bien pire.
Comment était la police à cette époque ?
Bien, les flics étaient toujours brutaux. Certains de mes premiers souvenirs de quand j'étais petite, c'était d'entendre parler des révoltes contre les meurtres policiers aux infos. Mais la situation a empiré. La police de New York a pris le contrôle d'une grande partie des trafics de drogue et commençait à prendre le contrôle des travailleuses du sexe de rue aussi. À Chelsea, ça devenait dur. Il y avait ce flic qui me harcelait pour de l'argent tous les soirs et qui me montrait bien que c'était lui qui dirigeait le quartier. J'oublierai jamais son visage. Il se faisait des traces de doigts sous les yeux, vous savez, comme les joueurs de football. Je sais pas, il se faisait tout ça, les flics autour de lui. Bon, les flics, en gros, c'était un gang, mais avec beaucoup de flingues. Je l'ai compris seulement après, mais la police avait changé d'attitude avec les bourges aussi. Ils ont commencé à vouloir être payés pour leur protection. Si on voulait travailler en ville, on devait apprendre les règles. Mais je pense que c'était aussi le signe que tout se cassait la figure à tous les niveaux.
Comment était la vie à Hunts Point ?
Même quand j'étais défoncée, je travaillais dur. Dans la rue, tous les soirs, je n'étais pas très prudente, ou pas assez prudente, mais j'ai eu de la chance et je m'en suis sortie. C'est bien plus sûr maintenant que c'est nous qui organisons tout. Les filles ont les centres et les communications, et elles sont toujours en contact les unes les autres, plus personne ne cherche des noises à présent. Mais tellement de filles sont mortes, tellement s'en sont pas sorties. Nous avons monté un projet de mémorial ici l'année dernière. Nous avons rassemblé les histoires de toutes les personnes qui travaillaient dans la rue avant la commune. On a rassemblé toutes les photos, les vidéos, les holos qu'on a pu, les histoires de toutes celles qui s'en sont pas sorties. Un peu comme vous faites là, une histoire orale à écouter autant de gens qu'on pouvait. Ça a fait remonter beaucoup de choses en moi, j'ai beaucoup pleuré. Et il y a eu beaucoup d'embrassades. C'est bien pour les filles plus jeunes de savoir, parce qu'elles savent pas. Elles doivent savoir pourquoi on doit défendre la commune à tout prix.
Avez-vous peur que je sois une de ces personnes qui veulent simplement utiliser votre histoire ?
Bien sûr que tu veux utiliser mon histoire, ma chérie. C'est pour ça qu'on a des histoires, pour les utiliser. La question c'est pourquoi faire. Et je te connais pas vraiment.
Je comprends. Est-ce que vous voulez continuer cet entretien ?
Je veux bien essayer. Ta mâchoire ressemble un peu à la mienne, t'as l'air ok.
J'apprécie votre confiance. Comment étiez-vous dans les années 40 ?
J'étais tellement belle. J'avais eu pas mal d'opérations, mais j'étais splendide, tellement belle. Je participais au bord et je gagnais toujours dans la catégorie visage. J'étais une merveille. J'avais une haute opinion de moi-même à l'époque, même quand j'étais déchirée à la coque ou à la tina. Je pense que d'une certaine manière, avoir la grosse tête, ça m'a gardé en vie. Ça m'a permis de continuer. Comme si je savais que j'étais meilleure que toutes les autres. Je sortais jamais autrement qu'en robe. Pas question. J'avais toujours belle allure, peu importe à quel point tout allait mal. Mes robes étaient juste tellement colorées et pleines de vie. Miss Reginald, une styliste de la même house que moi, me les faisait pour les balls et je les portais dans la rue quand je travaillais. Je prenais beaucoup de place, peu importe qui m'accompagnait, j'étais tout. Ça se voyait dans mes robes, à la façon dont je bougeais, dont je parlais. Les gens me disent que j'étais tellement prétentieuse, mais c'est pour ça qu'on m'aimait. Maintenant, j'ai un peu plus les pieds sur terre, je suis moins auto-centrée. Cela dit, les choses sont beaucoup plus faciles aujourd'hui, donc je n'ai plus besoin de toute la confiance que j'avais à l'époque, peu importe ce qui a pu se produire. Je n'ai pas besoin d'en imposer pour empêcher quelqu'un de me tuer dans la rue, trouver de la nourriture à mettre sur la table, ou pour savoir que quelqu'un sera là pour prendre soin de moi quand j'en aurai besoin. Quelque part sur le chemin, j'ai un peu appris à écouter, et à ne pas avoir besoin de tout ça pour avoir quelque chose à dire.
Parlez-moi de la fin.
C'est pas quelque chose dont j'aime parler. Je ne savais presque rien de ce qui se passait dans le monde à l'époque. J'étais complètement paumée. Il y avait la guerre, je sais, elle durait depuis toujours. Les hommes qui travaillaient au marché vieillissaient parce que tous les jeunes avaient été envoyés en Iran, et puis à un moment, je sais pas en quelle année, tout s'est effondré. Tout le monde avait la même toux cette année-là, et aucune des filles n'arrivait à travailler parce que tout le monde avait tellement peur de l'attraper. Tout le reste a commencé à tomber en morceaux, on pouvait plus rien acheter, tous les magasins accessibles à pied étaient vides, les métros, les bus, tout était fermé. On pouvait acheter cut, les épiceries étaient toutes dévalisées.
Cut ?
Je veux dire, rien du tout. Il n'y avait rien à acheter, quoi. Des clous, ma cache.
Comme que dalle ?
Ouais, un truc dans le genre. Donc, les magasins étaient vides, le marché tournait encore. Des camions y passaient toute la journée et toute la nuit pour décharger les primeurs, et puis tout était envoyé à Manhattan. Ils envoyaient des convois armés, c'était la police de New York, mais qui était là que pour protéger les camions. Mais il n'y avait rien à manger ici, juste le riz brun à la con que les punks servaient sous la bunker. Cette merde ne suffisait pas pour vivre. C'était comme ça partout, autant que je sache. Tout le monde était tellement furax, à l'été 50, il y avait des affrontements avec les flics toutes les nuits. Longtemps avant, il y avait une émeute à Chelsea quand j'y étais arrivée. On avait brûlé une camionnette de police et tabassé quelques cadets. À ce moment-là, c'était comme ça tous les soirs. Au début, on se révoltait seulement quand ils tuaient quelqu'un, mais à un moment, ça a gagné en vitesse et on a senti qu'il fallait qu'on gagne, d'une façon ou une autre, qu'on pouvait plus revenir en arrière. Certains soirs, j'étais trop déchirée, d'autres soirs, j'étais occupée à travailler, ou alors j'avais trop faim, mais la plupart du temps, quand j'étais dehors, je tombais sur des gosses et la police qui s'étripait. Il y avait des nuits où tout le monde était dehors. Même Mémé était sortie un soir et elle avait raconté qu'elle avait craché sur un flic. Pendant un moment, il y a eu des émeutes dans toute la ville. Puis l'armée a tout maté. Ils ont installé des grandes cantines où ils nous donnaient de la bouffe merdique, de la pâtée de protéines. Pff, mon Dieu, qu'est-ce que je détestais cette pâtée de protéines. Je faisais pas mal de passes avec des types qui travaillaient au marché. Je les faisais payer en nature, en viande ou en pommes de terre. Certains jours, j'avais rien, mais j'amenais souvent un peu à manger à Mémé, à Miss Reginald, avec ce qui je vivais. Elle était trop malade pour travailler, alors je faisais de mon mieux. Dieu merci, j'étais sobre à cette époque, parce que je m'en serais pas sortie si j'avais eu à dénicher de la drogue. Je faisais un peu de bénévolat dans cette clinique d'échange de seringues qu'on avait installée dans le Point, et ça m'a aidé à me sevrer. La faim, c'est vraiment dur, je veux dire, ça faisait mal, vraiment mal. J'avais la tête qui tournait pendant des jours, tout le monde tombait malade à cause du manque de nourriture. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais je n'avais jamais rien vécu comme la famille. Mais on commençait à prendre soin les unes des autres. Partout, on commençait à faire attention.
Et à quel moment l'armée a-t-elle pris le contrôle du Bronx ?
Je sais pas. Je me souviens pas exactement quand c'est arrivé. Il faisait un putain de froid et servait la pâte de protéines froides. Je me souviens de tout ça. Mon Dieu, c'était vraiment de la merde. T'as déjà mangé de ce truc ?
Oui, j'étais dans le camp de Rice avant d'aller dans le sud.
Tu t'es battu en Alabama ?
Non, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour aider. J'ai surtout passé du temps dans le delta du Mississippi après qu'ils ont détruit Jackson. Avant que les choses ne deviennent intéressantes, ici, vous avez eu quelque chose à voir avec ça?
Oui, je suppose qu'on peut dire ça, tu sais flatter une demoiselle.
Pouvez-vous nous en dire davantage à propos de la prise de drogue et de l'addiction, et de votre processus de guérison qui a mené à cette période?
C'est une chouette question. Je pourrais, mais je ne pense pas, je vais plutôt vous raconter le marché. Laissez-moi vous parler de la nuit où on a pris le marché. J'oublierai jamais. C'était la chose la plus incroyable qu'aucune d'entre nous n'avait jamais vue. Je vous ai dit que le marché était resté actif pendant la famine. On voyait ces camions qui rentraient et sortaient. Quand les émeutes ont commencé, la police a installé d'énormes barricades tout autour du marché, des murs de métal 5 mètres de haut. Ils ont fortifié la bunker, ils ont tout fermé. Il n'y a que les gens de Manhattan qui pouvaient l'utiliser ou bien les camions pleins de nourriture qui allaient en ville. Pendant un temps, quand on se battait contre l'armée, le marché est devenu le centre des émeutes. Parce que tout le monde savait qu'il y avait à manger à l'intérieur. On se battait le long des On Point Avenue. Une nuit, on a brûlé un tank. Beaucoup de gens ont été abattus, beaucoup de filles aussi.
Les événements qui ont mené à l'insurrection.
Ah oui, c'est vrai. On s'est battu de toutes nos forces. Les filles, je veux dire, avec tout le monde, alors que la faim continuait et que l'armée nous traitait mal. Et puis, en 52, l'armée s'est presque entièrement retirée. La prise du marché a eu lieu au début du mois de mai, vers cette année-là. Je suppose que l'armée devait aller dans le sud ou vers l'est, parce que, de ce que j'entendais, les combats démarraient vraiment. La police était toujours là, à défendre le marché, mais il y avait des fusillades entre elles et les gangs partout dans le Bronx. Alors les flics étaient carrément tendus.
Les gangs n'étaient pas très actifs au Point. Les filles ne s'entendaient pas bien avec eux et à ce moment, on était plutôt bien organisés. Alors il n'y avait pas beaucoup de police dans le coin, pas assez en tout cas. Dans les combats, les gens ont commencé à vouloir s'entendre les unes les autres comme tout le monde n'était plus si méchant tout le temps. Quelques gangs ont commencé à être plus respectueux envers les filles. Je crois que la commune a vraiment démarré là, en un sens, quand on s'est battu dans la rue, les unes à côté des autres. Il a fait chaud cette année-là, au milieu du mois d'avril, c'était juste brutal. Plus de 90 la nuit, 30-35 je veux dire, on utilisait les Fahrenheit à cette époque. Il faisait chaud, il y avait peut-être 20 cadets au total pour garder le marché, et cette nuit-là, tout le monde était dehors. L'armée était partie, on trouvait même plus leur foutu pâté. Les punks étaient toujours là avec leurs ribrins, mais les gens avaient fini par les détester à cause de lui. Il faisait tellement chaud, je suais tellement dans cette robe, cette chose magnifique avec des paillettes qui reflétaient la lumière des lampadaires. Beaucoup, beaucoup de gens, quelques milliers. Il y avait ces grands feux dans les rues. Pourquoi est-ce qu'on allumait des feux alors qu'il faisait déjà si chaud? Je sais pas, mais on avait ces grands feux de joie et quelques gosses avaient construit une catapulte et envoyé des poubelles enflammées par-dessus le mur. Et puis, quelqu'un a pris un semi, ce camion énorme, et a foncé dans la barricade. Et le mur est tombé. On a envahi ce foutu marché. On a mis leur compte à ces putains de porcs et aux troupes privées que le marché avait engagées. On a brûlé leurs bureaux. La plupart des gens se sont tirés avec toute la nourriture qu'elles pouvaient trouver. Beaucoup de gens n'avaient pas vu un légume vert depuis des années ou de la viande. Et tout était là, étal après étal, rempli de la meilleure nourriture qu'on pouvait imaginer. J'ai demandé à ma copine Cindy d'apporter des crevettes à Miss Reggie parce que je savais à quel point ma Reggie avait vu les crevettes. Alors tous ces gens étaient partout dans le marché et puis on est restés. On a tenu le marché. Quelques flics sont venus le matin, on a utilisé les catapultes pour balancer les poubelles enflammées sur leur voiture. Ensuite, on a pris la bunker et on a tout barricadé. Le matin, on était peut-être quelques centaines et puis quelques centaines de plus sont venus dans la semaine alors qu'on dépattait de ce qu'il fallait faire. Quand je me souviens de cette nuit-là, je vois les poubelles en feu voler dans les airs et tout le monde applaudir et courir par-dessus les débris quand le marché est tombé.
Ça avait l'air incroyable.
Oh, ma fille, ça l'était, c'était tellement beau.
Et ça a été un point de basculement pour tout le reste?
Oui, à ce qu'on m'a dit, la naissance de la commune de New York. La nuit où tout s'est ouvert, la bataille de Hunts Point.
Nous approcherons de son 15e anniversaire.
Oui, et je dois prendre la parole. Et elles en font toute une histoire. Bon, j'ai déjà choisi ma robe.
Vous dites qu'elles ont fait tout ça. Qui sont elles?
Oh, je suppose que je dois m'inclure dedans aussi. J'ai beaucoup débattu et j'avais beaucoup de choses à dire, mais c'était difficile pour moi de voir ça comme quelque chose dont je faisais partie aussi. Je n'avais jamais rien fait de pareil, aucune d'entre nous, je suppose. J'ai tout le vocabulaire politique pour comprendre l'insurrection maintenant, pour parler de communisation et tout ça. Je devais commencer à voir ce qu'on faisait au marché comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Mais dans les semaines qui ont suivi la prise, je me suis concentrée sur ce que je faisais le mieux, prendre soin des gens. À peu près 500 personnes sont venues vivre dans le marché, travailler dans la distribution de nourriture. Je m'assurais qu'on s'occupait de tout le monde quand elles étaient malades, qu'elles avaient des amis, une chérie ou du sexe qui leur allait, qu'elles avaient la possibilité d'apprendre de nouvelles choses et d'aider. Les filles et moi, on a pris la responsabilité de s'occuper de tout le monde. On a mis en place un centre de sevrage, une cantine, une clinique et même une école. Ça a fini par être une responsabilité partagée, mais pendant les premières années, on a décidé que ce serait notre travail de faire en sorte que toutes celles qui venaient nous trouver avaient tout ce dont elles avaient besoin. Ça a été une source d'inspiration pour beaucoup de gens qui cherchaient à repenser leur mode de vie. J'ai trouvé mon rôle ici au début et je me suis concentrée là-dessus pour pas être submergée par tout le reste. Mon rôle, c'était de m'assurer qu'on s'occupait de celles-là qui venaient travailler ou vivre ici.
Qu'est-ce que la commune signifie pour vous?
Ça veut dire qu'on prend soin les unes des autres. Ça veut dire tout pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a foutument communisé cet endroit. Ça veut dire qu'on a pris quelque chose qui était de la propriété et qu'on en a fait de la vie.
Il y a la commune où vous vivez, mais aussi la commune de toute la région.
Oui, j'ai commencé à m'en rendre compte quand nous avons décidé de nous assurer que tout le monde avait à manger. Tout était lié. Que les filles et moi, on pouvait aider à prendre soin de celles qui trimballaient la nourriture dedans et dehors, qu'elles pouvaient s'occuper du quartier et que le quartier pouvait prendre soin de la ville, et la ville de toute la région. Et puis, la région, vous pouvez prendre soin de toutes. C'est toute une commune. C'est tout pour tout le monde. Ça a demandé beaucoup de combats et beaucoup de morts, et chaque jour, ça paraissait impossible, mais on a réussi. Je sais pas comment, mais on a réussi. Je ne suis peut-être plus aussi jolie qu'avant, mais bon, c'est pas grave, je suis fière. Pas fière de la même façon qu'avant, mais fière de nous.
Comment avez-vous fini par essayer de distribuer la nourriture ?
On a nourri la révolution, tu peux être sûr de ça. Yel, je veux dire on, a vite compris que la meilleure façon de distribuer à manger n'étant pas en passant par des familles ou des magasins, mais à travers de grosses organisations de résidences, d'immeubles, de pâtés de maison ou de quartiers entiers. Alors que les gens repoussaient l'armée et les forces de police, qu'elles se battaient quartier par quartier, de plus en plus de gens ont commencé à vivre comme on faisait à Hunts Point. Les gens avaient toujours des familles, j'imagine, des gens avec qui Yel partageait un appartement, ou avec qui Yel élevait un enfant, ou avec qui Yel couchait. Mais on s'occupait de tout pour le bloc entier, avec des assemblées, pour essayer d'améliorer les endroits où ça coinçait. Alors si tu t'entendais plus avec quelqu'un, tu pouvais simplement déménager dans un autre appartement de l'immeuble, et c'était pas très important, on s'occupait de toi. On distribuait la nourriture à travers ces communes ou dans des cantines de quartier, et ça a été un grand soutien pour les gens qui découvraient de nouvelles manières de vivre. Et avec un endroit correct où vivre et manger, les gens sont devenus de plus en plus audacieuses quand ils se battaient dans les rues. Pendant quelques années, à travers le Queens, Manhattan, le Bronx, un bout du New Jersey, autour de Fort Lee, Cliffside Park, Edgewater, un morceau de Mount Vernon et de New Rochelle, toutes celles qui se battaient vraiment manger dans une cantine ravitaillée par le marché de Hunts Point.
Vous vous occupiez vraiment de tout le monde ? Qu'est-il arrivé aux propriétaires, aux anciens flics, aux saletés de patrons ?
Sûr, qu'on n'avait pas peur d'affamer quelqu'un ou de prendre d'autres décisions plus sanglante et plus difficile, alors non, pas de patron, pas de flic. Aucun d'entre eux ne pouvait venir s'ils s'accrochaient à leurs vieilles idées. Mais s'ils donnaient ce qu'ils avaient, s'ils quittaient leurs anciens jobs et venaient vers nous sans propriété ni pouvoir, c'est une expression que j'ai apprise à l'époque, je me souviens que les gens disaient ça, sans propriété ni pouvoir. Alors pourquoi pas, on était heureuses de les nourrir, comme n'importe qui d'autre. On les gardait à l'œil par contre, pour s'assurer qu'ils ne tentaient rien de bizarre. Généralement c'était les quartiers qui s'occupaient de ça, nous on s'occupait du Bronx, et on s'assurait que ces types-là n'envoyaient pas à manger à d'autres propriétaires.
Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez partager ?
Quelque part, à l'intérieur, je suis toujours la fille que j'étais quand je suis revenue de Chelsea pour la première fois. Je veux que tout le monde m'aime, que tout le monde me voit comme je suis belle. Je l'aime pas beaucoup ces jours-ci, mais je ne veux pas être oubliée. Tellement de filles sont mortes et on n'est pas nombreuses à se souvenir d'elles. Je veux que les gens se souviennent de moi, c'est idiot à dire et à m'entendre dire, mais c'est toujours comme ça que je me sens.
Je pense que les gens vont se souvenir de vous, Miss Kelly.
Ah, oh, merci ma chérie, t'es un amour. Merci d'avoir enregistré ça.
Merci à vous, Miss Kelly.
Pronto, hermanos, estamos pendientes.